Histoire et gastronomie. La chronique de Jean Vito sur Canal Académie.
Balzac à table. Honoré de Balzac est un des plus grands écrivains de la première moitié du XIXe siècle. Il nous a laissé la plus ambitieuse des fresques littéraires romanesques de son temps, la Comédie humaine. La Comédie humaine est un mélange d'observations, de souvenirs autobiographiques et d'inventions romanesques, donnant un tableau vivant de la société des deux restaurations et dressant des portraits types qui sont restés proverbiaux. C'est un provincial monté à Paris où il rencontra le succès. Il resta toujours attaché à sa Touraine natale. Il parla avec amour et regret des rillettes de Tours dans le collège de son enfance, dans le Lys dans la vallée. Les célèbres rillettes et rillons formèrent l'élément principal du repas que nous faisions au milieu de la journée. Cette préparation, si prisée par les gourmands, paraît rarement sur les tables aristocratiques. Je n'avais jamais eu le bonheur de voir étendre pour moi cette brune confiture sur une tartine de pain. Quand plus tard il reçut le bon à tirer d'un de ses ouvrages, il siffla pour fêter l'occasion 4 bouteilles de Vouvray, vin moelleux de son terroir, auquel il resta toujours attaché. La vie de Balzac était passablement déréglée. Quand il écrivait, il passait 15 heures à sa table de travail, jusqu'à ce que son ouvrage fût achevé. Il mangeait alors des fruits en grande quantité, surtout des poires, dont il était particulièrement friand, et du raisin, parfois des œufs et du jambon, et restait alors parfaitement sobre. Il ne buvait pas de vin, mais consommait de grandes quantités de café, qui, selon lui, lui éveillait l'esprit. Tout changeait après ces périodes d'écriture. Son écriteur Verdet l'a décrit sobre quand il travaillait et comme un véritable Vitellius quand il mangeait. Balzac a toujours été impécunieux durant sa vie. Dépensant plus qu'il ne gagnait, il avait une peur panique de la prison pour dette, mais il y alla un jour, non pas pour dette, mais parce qu'il refusait de s'acquitter des obligations de la garde nationale. En prison, il se fit donner 200 francs par son éditeur et organisa un véritable festin avec son éditeur et des invités choisis. Son éditeur raconte par ailleurs qu'un jour il ingurgita un sang d'huître de stand, c'était la mode à l'époque, depuis que Louis XVIII l'avait fait à Gand pendant les 100 jours, 12 côtelettes de prés salés, un canard au navet, un couple de perdreaux rôtis et une sole normande. Et Verdet de conclure, tout est englouti sans miséricorde, il ne resta que les os et les arêtes. Dans la Comédie humaine, les expériences gastronomiques de Balzac à l'extérieur de chez lui sont surtout rapportées dans le cycle Vautrin. Grand brigand et manipulateur, dont Vidocq aurait été le modèle. Eugénie Grandet, Les Illusions perdues et Splendeur et misère des courtisanes. Certaines des expériences gastronomiques de Balzac y sont décrites dans l'Odyssée de Lucien de Rubempré. Quand il arrive à Paris, il déguste chez Véry, restaurant à la mode du Palais Royal, des huîtres de stand, un poisson, une perdrix, un macaroni et des fruits arrosé d'une bouteille de Bordeaux, pour une addition énorme à l'époque de 50 francs, soit un mois de sa vie, dans son Angoulême natal. Tous les personnages de la Comédie humaine dont Vautrin se retrouvaient aussi au Rocher de Cancale, autre lieu de haute gastronomie, où dîne Lucien de Rubempré avec Madame de Bargenton et Monsieur du Châtelet le soir de son arrivée à Paris. Honoré de Balzac préfère visiblement au crédule Lucien de Rubempré, ses expériences gastronomiques. Il faut dire que, toujours impécunieux, Balzac laissait souvent un bon pourboire au garçon et faisait adresser la note à son éditeur. Avec le temps, la mode se déplaça du Palais Royal au boulevard des Italiens et notamment au Café Anglais où Rastignac avait ses habitudes. Lors de la descente aux enfers de Lucien de Rubempré et la création du Cénacle, Lucien de Rubempré quittera les tables à la mode et retrouvera les adresses de la jeunesse de Balzac. C'est l'époque de Flicoteaux, place de la Sorbonne, qui proposait des repas de 3 plats pour 18 sous, 120 et 22 avec du pain à volonté et des pommes de terre à tous les repas. Pas loin de là, les personnages du père Goriot se retrouvent à la pension Vauquer. L'on est logé ou l'on mange pour 30 francs par mois, mais l'ordinaire est moins bon, dominé par le haricot de mouton et l'accommodement des restes. Mais l'on mangeait aussi chez soi. Dans la comédie humaine, Balzac a essayé tous les types de mangeurs, de l'avare qu'est le père Goriot jusqu'au vrai gastronome qu'est le cousin Ponce. Il décrit les grands traiteurs de l'époque comme Chevet, qui forma le jeune Antonin Carême, et également Dunan, le cuisinier de Bonaparte à Marengo, l'inventeur du poulet Marengo. C'est Chevet qui organise le dîner de remise de la Légion d'honneur de César Birotteau. Le banquier Taillefer, personnage sulfureux, comme le révèle l'origine crapuleuse de sa fortune dans L'Auberge rouge, autre roman de Balzac qui n'est pas inclus dans les comédies humaines, organisera des dîners somptuaires dans la grande tradition des dîners ridicules de Pétrone, le repas de Trimalcion, et de Boileau, le repas ridicule. Mais l'impécunieux Balzac avait toujours des obsessions liées à son manque perpétuel d'argent. Ainsi, les prix sont toujours trop chers, les devis des traiteurs comme celui du repas de César Birotteau ne sont jamais respectés, et les domestiques comme celle de la cousine Bette organisent le coulage ou volent leur maître. Bien que la vie de Balzac soit avant tout parisienne, ses rêves le portaient vers ses souvenirs d'enfance, les rillons et le vin moelleux de Vouvray, son verger et son fruitier remplis de poires à Sèvres, et la cuisine de province où, selon Balzac, on savait mieux manger qu'à Paris, comme il le dit dans La Rabouilleuse. On ne dîne pas aussi luxueusement en province qu'à Paris, mais on y dîne mieux. Les plats y sont médités, étudiés. Au fond des provinces, il existe des carêmes en jupon, génie ignoré. Balzac nous dit aussi qu'en province, l'existence se concentre peut-être trop sur ce grand et moyen universel d'existence, la table, auquel Dieu a condamné ses créatures. Reste un problème. Balzac était-il un gastronome, comme Flaubert, ou simplement un gros mangeur, comme son embonpoint peut le laisser supposer? Plus probablement, il compensait ses périodes ascétiques d'écriture par des périodes de détente et d'excès dont la gastronomie n'était pas absente. En témoigne son amour des vrais produits, huîtres et fruits, des plats du terroir et sa réticence des repas somptuaires pleins d'artifices.